Bonjour à tous. On passerait des heures à louer Dieu là, franchement, c'est tellement bon. Ça fait un petit moment que j'ai à cœur de vous partager la parole par rapport au sujet de la prière. C'est un sujet qui mérite toute notre attention. Mais malheureusement, malgré tout, malgré le fait que ça mérite notre attention, il y a tout un combat, c'est souvent difficile de prendre du temps, d'avoir une continuité dans la prière. Et on peut faire un premier constat que je vous propose avec la slide suivante. De pourquoi c'est autant difficile, pourquoi les chrétiens négligent finalement la prière. Le premier point, c'est peut-être la perte de la conscience de la présence de Dieu. Parce que si on ne croit pas que Dieu est là avec nous, si on n'a pas conscience qu'il est présent, qu'il habite en nous, ben on aura l'impression de prononcer peut-être des paroles en l'air finalement. Le deuxième point, c'est qu'on a des vies tellement intenses où il y a des distractions dans tous les sens, et si on ne met pas les bonnes priorités, et ça c'est quelque chose qui se passe tous les jours, de remettre en ordre nos priorités, n'est-ce pas? Le troisième point, c'est un manque de foi peut-être dans l'efficacité de la prière finalement. Peut-être certains, vous avez prié, vous avez pris du temps dans la prière et puis vous n'avez pas eu de résultat. D'autres, peut-être, un autre point, c'est peut-être un manque d'enseignement au sujet de la prière aussi. Et cinquièmement, c'est parfois plus vu comme une corvée. On sait qu'on a toujours entendu « il faut prier ». Et plutôt que de développer une relation avec le Saint-Esprit en fait. Sixièmement, c'est un attachement excessif aux solutions humaines. Et ça, on peut le voir avec nos frères en Afrique, dans certains pays où il y a vraiment de la pauvreté. Et c'est une lutte de tous les jours, déjà pour avoir à manger. Ils doivent placer toute leur confiance en Dieu et avoir cette foi pour dire « Seigneur, là, j'ai besoin que tu pourvoies. Merci, Seigneur, que tu pourvoies à nos besoins. » Alors que nous, dans l'Occident, on est quand même assez confortable. On vit des vies quand même confortables, n'est-ce pas? Un autre constat aussi qu'on peut voir, c'est que dans les vies d'église, ben parfois les réunions de prière dans la semaine, ben, même si ça peut être une église où il y a des milliers de personnes, au final, ben, la réunion de prière, il va y avoir peut-être quoi, 10 personnes. Les personnes âgées qui sont à la retraite ou quoi, en fait, qui ont plus de temps, finalement. Et ça dénote vraiment un manque de conscience de l'importance de la prière. Et ce matin, ce que je veux partager avec vous, c'est pas tant les différents types de prières, mais pourquoi Dieu a voulu la prière. Et le premier point que je vais aborder avec vous, c'est Dieu a délégué à l'homme l'autorité sur terre. Et ça, c'est fort. Donc le Dieu trinitaire, là, j'ai mis le Père, Fils et Saint-Esprit, il a créé l'homme à son image. Écoutez bien ces premiers points en particulier, c'est vraiment important. Dieu a créé l'homme, corps, âme et esprit. En théologie, c'est la trichotomie. Donc on est corps, âme et esprit. Et ce premier verset que j'ai choisi, c'est Genèse 1, 26, 31. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Il n'a pas dit « Je fais l'homme à mon image, à ma ressemblance. » Il a dit « À notre ressemblance. » Qui ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous sommes à sa ressemblance, corps, âme et esprit aussi. Dans Thessaloniciens 5, 23, il nous est dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. » Donc là, il s'adresse encore à notre esprit, notre âme et notre corps. Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, dans Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit dans notre corps. » Donc c'est important, j'ai pris ces versets pour vraiment qu'on puisse avoir une assise biblique sur ce fait-là. Et le deuxième point là, c'est Dieu a donné la terre aux hommes, donc Adam, qui signifie de la poussière, de la terre. Dans Genèse 2, 7, c'est dit, « L'éternel Dieu façonna l'homme Adam avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme Adam devint un être vivant. Donc, il a soufflé son corps, enfin, dans son corps, son esprit de vie, en fait. Ensuite, dans Psaume 115, verset 6, c'est un verset puissant encore. Et là, vraiment, je veux vraiment qu'on puisse laisser la parole de Dieu s'imprégner dans notre cœur, parce que c'est vraiment puissant. Le ciel appartient à l'Éternel. Le ciel appartient à l'Éternel. Mais il a donné. Donc, ce que Dieu donne, il donne, hein. D'accord. Il a donné la terre aux hommes Adam, donc à l'être humain, celui qui est de la terre, de la poussière. Et c'est intéressant de voir que quand l'être humain meurt, son esprit part aussi avec son âme. D'accord ? Genèse 1, 26, 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Il a dit qu'il domine l'homme. Donc là, le mot qu'il domine, c'est gouverner, avoir la domination, dominer, fouler aux pieds sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et là, il a dit qu'il domine. Il n'a pas dit dominons. Que Dieu domine. Je vais dominer avec l'homme sur la terre. Il a dit qu'il domine. C'est intéressant à noter, hein, quand même. Donc il s'est comme retiré en fait de l'équation au final. Et donc à cet instant-là, quand il a dit qu'il domine, c'est l'homme qui est devenu l'intendant, le gouverneur de la terre. Et je vous propose une image. C'est vraiment intéressant. Et je sais que ça nous bouscule dans nos pensées, dans nos raisonnements. Hein. Mais c'est fait exprès ce matin. Donc je vous propose une image. Imaginez par exemple Bill Gates, qui est multimilliardaire. Il lègue toute sa fortune, son entreprise. Enfin, il lègue toute son entreprise à ses enfants. Légalement, il n'a plus d'autorité. Finalement, il ne peut pas faire de chèque au l'ordre de l'entreprise ou quoi que ce soit. Il ne peut pas définir les stratégies de l'entreprise ou quoi que ce soit. Mais ce père-là, il a voulu donner cette autorité à ses enfants pour garder aussi une relation avec eux, pour leur dire, écoute, moi j'ai toutes les ficelles du métier. Je sais ce qu'il faut faire exactement. Donc écoute-moi bien, écoute, on développe cette relation et je vais te montrer comment il faut agir. Malheureusement, en tant qu'homme, on le voit, hein, on a choisi souvent autre chose que ce que la Bible nous dit et ce que Dieu nous demande. Et donc avec cette perspective-là, je vous invite à ce qu'on puisse aller revisiter quelques passages, même dans votre temps de lecture quotidienne, d'avoir ces lunettes et de dire, Seigneur, ouais, ok, là, tu as choisi d'utiliser l'homme, tu as choisi de m'utiliser, d'être partenaire avec moi, que je sois partenaire avec toi. Et donc, le premier point que je voulais vous proposer, c'est Moïse. Donc Dieu a attendu que Moïse vienne, que Moïse se lève, accepte d'aller délivrer le peuple d'Israël, avec Dieu bien sûr, hein, encore une fois en tant que dans ce partenariat-là, pour pouvoir aller délivrer Israël. Et par exemple, quand le peuple il a eu soif, Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher et après de l'eau en sortira. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire sortir de l'eau comme ça? Finalement, si, il aurait pu. Mais non, là, il a choisi, encore une fois, de ne pas le faire parce qu'il a donné l'autorité à l'homme. Il a dit, et c'est Moïse, une fois que Moïse a tapé sur le rocher, l'eau est sortie. Et encore une fois, quand le peuple d'Israël était poursuivi par les Égyptiens, il a fallu que Moïse lève la main pour que la mer s'ouvre. Il a fallu qu'il lève la main pour que la mer se ferme. Parce que Dieu lui avait demandé, d'accord ? Et on voit aussi dans tous les livres des juges que Dieu a suscité des hommes pour aller guérir, délivrer et restaurer Israël. Et les guider. On voit aussi que lorsque Satan est venu tenter Adam et Ève avec le corps d'un serpent, Dieu n'est pas intervenu parce que il avait délégué son autorité. D'accord ? Il aurait pu dire, c'est bon, c'est mon affaire, Satan, casse-toi. Mais il avait donné son autorité à l'homme, c'était à l'homme de le faire. Et dans l'Ancien Testament aussi, on voit que le Saint-Esprit venait que ponctuellement sur les hommes pour qu'ils puissent libérer la parole qu'il voulait donner au peuple d'Israël. Il venait sur les prophètes. Et en fait, il a fallu attendre que Jésus vienne, qu'il paye le prix à la croix, que son sang nous lave à chacun, pour tous ceux qui ont accepté le sang de Jésus, pour que l'ensemble de cette multitude que nous sommes de chrétiens puisse être le temple du Saint-Esprit. Et ça c'est super profond. On voit que, et même Jésus, il disait, il est préférable, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit pouvait ensuite venir nous habiter à chacun, pouvait venir en nous. Alors, quelle conclusion on peut avoir avec tout ça? Dieu a donné l'autorité sur la terre aux humains, donc Adam. Il n'a pas donné à lui-même, ok? L'homme est l'intendant légitime de la terre. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il est devenu légal sur la terre. En fait, Dieu est devenu légal au travers Jésus, quand Jésus est venu, il a rendu le Saint-Esprit légal, en fait, de pouvoir agir. Je me perds un peu là. Et en fait, il y a deux citations qui sont juste énormes, je trouve, qui nous montrent ce que je viens de dire là. En fait, c'est John Wesley, qui est un prédicateur, un grand prédicateur, qui a vécu de 1703 à 1791. Et puis, en fait, il a dit ceci. Il semblerait que sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. Ça, c'est profond encore. Il semblerait que sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. Et l'homme a l'autorité sur terre, mais Dieu a le pouvoir. Et donc le point suivant, c'est, ok, d'accord, Dieu nous a donné ce pouvoir, cette autorité, cette autorité-là. Maintenant, est-ce que Dieu va répondre si on prie quelque chose qui n'est pas selon sa volonté? On voit dans Jacques 4, 2, vous désirez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Déjà, si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. D'accord? Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, il y a cette invitation à prier suivant la parole de Dieu. Et dans Jean 5, 19, Jésus nous montre complètement le modèle, comment en fait on doit agir. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Donc c'est important que dans nos temps de prière, on puisse discerner ce que le Saint-Esprit est en train de faire, ce que Dieu veut faire. Avoir ce discernement, cet œil, ce regard spirituel où, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de faire là, où est-ce que tu veux agir, en fait? Pour que moi-même, eh bien, je prie en ce sens et que j'agisse en ce sens. C'est Yong Gicho qui disait, je prie et j'obéis. Parce qu'il a vu le Père faire, il agit et il obéit. Luc 22, 42 nous dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors oui, on a reçu cette autorité, mais on doit prier suivant la parole de Dieu. Et ce verset aussi qui nous dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Et ça, c'est important parce que recherchez d'abord le royaume de Dieu, calez-vous sur ma parole, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et en fait, tout le reste va venir après. Parce que si tu pries en fonction de ce que la parole te dit, le reste va en découler. Dieu va nous accorder le reste. Okay? Le troisième point, La prière, un combat spirituel qui exige de la persévérance. Et c'est là que certains s'arrêtent, en fait. On passe du temps à prier, un petit peu, puis bon, Seigneur, je n'ai pas eu la réponse à ma prière, bon, est-ce que c'est vraiment efficace? Mais là, la parole, elle nous enseigne qu'il y a un combat spirituel. Et qu'est-ce que le combat spirituel? Je vous propose cette définition. C'est la lutte invisible, mais bien réelle, entre les forces de Dieu et les forces du mal, donc Satan et ses démons, dans laquelle chaque croyant est impliqué. Il ne s'agit pas d'un combat physique, mais d'un combat dans le monde spirituel qui a des conséquences dans le monde visible. Et ce verset est très connu quand on parle de combat spirituel. Alors là, je vais pas. L'objectif de ce point-là, c'est pas de faire toute une prédication sur le combat spirituel, d'accord? Parce que là, on pourrait faire plusieurs prédications. Mais d'avoir cette notion, cette conscience qu'il y a des choses qui bougent en fait dans le combat, quand on prie. Et là, Daniel, donc, qui était un jeune prophète, il avait été déporté avec le peuple d'Israël à Babylone. Et le roi de Babylone avait prononcé un édit que quiconque prie quelqu'un d'autre que lui-même, que lui, le roi de Babylone, ben, mourrait, en fait. Et là, donc, un ange vient voir Daniel. Il lui dit, « Ne crains rien, Daniel, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Donc j'ai envie de te dire ce matin que tes paroles, quand tu pries, sont entendues par Dieu. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais par contre, le verset suivant, il nous dit le chef du royaume de Perse. Donc le chef du royaume de Perse, ici, ça représente une domination, une autorité spirituelle démoniaque. M'a résisté 21 jours. Mais Michael, donc on pense à l'archange Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc ça nous montre que pendant ces 21 jours-là, il y a eu tout un combat spirituel. C'est pas parce que tu pries là maintenant, des fois il y a un combat et tu dois persévérer en fait. C'est pour ça que j'ai noté la prière, un combat spirituel qui exige de la persévérance. Et pour confirmer ce point, j'ai pris Éphésiens 6, 12. On ne le voit pas bien là. Oh, tant pis, je vais vous le lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et parfois, beaucoup d'hommes se perdent en fait dans n'importe quelle religion où on va lutter finalement contre des hommes, alors que c'est dans le domaine spirituel qu'on doit aller combattre, n'est-ce pas? Et ça. Donc quand on suit ce chapitre-là, Paul nous parle de toutes les armes du salut, donc la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais là, écoutez bien, vraiment, écoutez bien ce passage-là, je trouve que c'est ultra parlant. Éphésiens 6, 18, donc dans la version parole vivante, « Demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante. » Car l'efficacité de ces armes, qu'on vient de voir, dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Moi, quand j'ai lu ce verset, c'est waouh. Donc toutes ces armes-là qu'on a vues, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, etc., ça aura moins d'effet, ça va perdre son efficacité si tu ne passes pas une vie dans la prière. Moi, je trouve ça, c'est dingue. Restez donc alerte et vigilant. Attentif aux occasions favorables, rempli de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Donc, la parole de Dieu, on peut le voir dans moult et moult passages, tout au long de la Bible, persévère à prier. J'ai mis si vous voulez les noter, prenez une photo. Vous verrez, il y a tout un tas d'encouragements. La Bible nous dit tout le temps, persévère dans la prière, persévère dans la prière. Maintenant, on comprend peut-être que certains ne savaient pas, n'avaient pas ces notions-là, mais on voit que l'importance de la prière, ok? Parce que si tu ne pries pas, Dieu s'arrête en fait. Si tu ne pries pas, Dieu s'arrête. Et c'est intéressant de voir que dans 2 Corinthiens 4, 2, c'est marqué « Persévère dans la prière », encore une fois, « mais veille-y avec des actions de grâce ». Donc tu persévères dans la prière. Mais derrière, ben, tu mets ta foi. Tu crois que Dieu t'a entendu, n'est-ce pas? Encore dans 1 Thessaloniciens 5, 18, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Donc prie et rends grâce parce que tu crois que ce que tu as demandé, ça t'est accordé. Et demeurez dans la foi. Donc Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc c'est le combat de la foi ensuite. Tu pries et tu restes dans la foi que Dieu te donne ce que tu as demandé. Si c'est conforme à la constitution du royaume de Dieu, Dieu va te l'accorder. Maintenant, persévère parce qu'il y a ce combat. Et encore ce verset, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc malgré que tu vis des situations peut-être compliquées, malgré que tu ne vois pas ce que, pourquoi tu as prié, persévère. Si tu sais que c'est une promesse que Dieu te donne au travers de la Bible, ben persévère. Combat ce combat de la foi. J'ai choisi quelques citations sur la prière qui illustrent bien le message que je vous ai partagé. C'est Mike Bickle qui dit « Le problème dans l'intercession n'est pas de convaincre Dieu de donner, mais de convaincre les chrétiens de prendre avec violence. » Donc proclame. On a demandé à Billy Graham, si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Tout le monde voit un petit peu qui est Billy Graham ou pas? C'est un grand homme de Dieu qui a eu un impact monumental, surtout aux États-Unis et enfin, dans le monde chrétien. Et ce qu'il a dit, je prierai encore plus, car tout se fait par la prière. Je prierai encore plus, car tout se fait par la prière. Et même, c'est intéressant de voir que dans toute l'histoire de l'Église, quand il y a eu des réveils, la plupart des réveils ont commencé par la prière. La plupart des réveils ont commencé par une prière fervente et prolongée. C'est-à-dire une prière où les gens se sont consacrés à la prière, ont pris des temps et se sont consacrés pendant X temps à la prière. Et Martin Luther King dit « Aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire que je dois d'abord consacrer 2 à 3 heures dans la prière. » Ça va complètement à contresens de ce qu'on peut, de notre raisonnement, en fait. J'ai tellement de choses à faire qu'il faut absolument que je passe 2 à 3 heures dans la prière. Parce que quand tu vas prier, tu vas libérer des choses. Et je vous... Ouais, merci Junior. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo, une courte vidéo, qui fait suite à une étude de Andrew Newberg, donc qui a mené une étude sur la prière. Et c'est super intéressant. On va l'écouter. À savoir que c'est une étude qui n'a pas de religion en particulier, mais qui dénote que quand on se consacre à la prière, il y a quelque chose qui se passe dans le corps.
Donc on a évalué les effets positifs de la prière sur la santé.
Oui.
Ça, c'est validé.
Assez validé et c'est formidable.
Mmh. Est-ce qu'on sait sur quelle zone du cerveau la prière agit-elle?
On a demandé à des fidèles de prier et en même temps, ils étaient sous IRM. Et on a découvert que la prière active des zones du cerveau au niveau de la relaxation, au niveau du bien-être, de la sérénité. Autrement dit, c'est aussi un anti-stress formidable. Et en plus, on leur a fait des prises de sang en même temps. Et on a vu qu'ils sécrétaient des hormones protectrices, des hormones du bonheur, de la détente, de la relaxation. Et qu'en même temps, ça stimule le système immunitaire. Autrement dit, la prière était quelque chose qui fait un bien immense.
Donc on voit que en réalité, Dieu nous avait créés pour qu'on puisse prier, avoir cette relation. On est d'accord? C'est impressionnant de savoir que, scientifiquement parlant, c'est reconnu aujourd'hui, les bienfaits de la prière. Ils ont fait des IRM, ils ont fait des prises de sang. C'est une étude qui a été qui a prouvé que la prière a des bénéfices sur le corps, pardon. Et cette étude, elle dit, la prière peut contribuer à une sensation générale de bonheur et de satisfaction. Elle entraînerait une réduction du stress et de l'anxiété, ainsi qu'une amélioration de l'humeur. Alors, pour ceux qui sont de mauvaise humeur, parfois, eh ben, allez prier, ok? Et ce qui est intéressant de voir aussi avec la prière, c'est que Jésus a enseigné au sujet de la prière. Il a pris le temps d'enseigner. JD nous a parlé de la prière du Notre Père tout à l'heure, à lire ce verset. Donc Jésus a enseigné sur la prière du Notre Père. Par contre, il n'a pas enseigné. Il a envoyé les disciples aller guérir les malades, chasser les démons, mais il n'y a pas eu d'enseignement comme au sujet de la prière. Et ça c'est fort aussi. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que quand tu vas prier, Dieu va te révéler aussi comment agir pour aller guérir les malades. Peut-être il va te révéler la source du problème. De quoi est-ce que ça vient ? Et pareil pour aller chasser les démons. Donc ce matin, ce que je veux nous proposer ce matin, c'est qu'on puisse se lever en tant qu'Église au sujet de la prière. Parce que c'est une arme efficace. Et que si nous ne prions pas, en fait c'est un combat. Si tu combats pas, t'inquiète pas, l'ennemi prend du terrain aussi. Donc en tant qu'Église, l'Église de Jésus-Christ a besoin de se lever pour prier. Nous, en tant que, déjà, en ce qui nous concerne individuellement, on a besoin de prendre du temps pour prier. Et en tant qu'Église, je vous propose qu'on puisse s'avancer ensemble comme un signe qu'on se lève en tant qu'Église, famille Connaître Grenoble. Et avoir ce temps où on dit, Seigneur, ouais, moi je veux me positionner, je veux. Alors qu'on vient d'entendre ta parole, Seigneur, je veux me positionner, je veux me lever. Et que ce ne soit pas une parole qui passe, mais que ta parole reste dans notre cœur. Seigneur, Saint-Esprit, je te prie de nous poursuivre, Seigneur. Que vraiment, on n'oublie pas, Seigneur, la prière, Seigneur. On veut se lever en tant qu'Église, Seigneur, de se positionner. On a vu toutes les armes qu'on avait en tant que chrétien. Et Seigneur, on veut pas qu'elles perdent l'efficacité, Seigneur. Alors Seigneur, ouais, c'est un acte d'obéissance aussi qu'on veut faire. Seigneur, on veut persévérer dans la prière.